Merci, bonjour. Bon, c'est quand même très compliqué de passer d'Alain Mangin aux fortifications du 10e, 11e siècle. Je vous avoue que pour moi, ce n'est pas simple. On va parler de ce sujet. Je sais qu'il se serait régalé. Alors, j'ai appelé ça fortification de l'an 1000. Bon, évidemment, ce ne sont pas les fortifications de 999 à 1001 que je vais vous présenter. On n'en est pas là. C'est un sujet très difficile. On traite des choses en siècles, voire en deux siècles, et vous allez voir que les résultats sont quand même très partiels pour l'instant, même si en fait je mène cette recherche depuis 20 ou 30 ans, et un petit peu plus activement sur ces chronologies-là depuis 2 ou 3 ans, par la découverte de sites. Alors, je vais vous présenter le cadre très rapidement, parce qu'il y a quand même un cadre politique, un cadre habitat, un cadre économique. Les fortifications, elles ne sont pas là toutes seules au milieu de rien, donc il faut en parler. Et ensuite, je vous présenterai les sites, ce qu'on a, et la forme des sites, et surtout les questions qui se posent à nous, qui sont aujourd'hui passionnantes et largement ouvertes. Alors le cadre, il y a un cadre politique qu'on connaît mal. Hein. On a quelques textes, quasiment rien en fait. On a quelques textes, on sait qu'on est dans quelque chose qui est le comté de Toulouse, le pagus, ça veut dire le pays en latin, hein, le pays de Toulouse. C'est ce qui est dérivé en fait de l'ancienne organisation administrative gallo-romaine avec la cité et son pays autour. Et dans ce pays de Toulouse, il y a des subdivisions qu'on appelle des ministeria, c'est le pluriel de ministerium, hein, on peut dire des ministerium aussi, ou des suburbia, suburbium ça veut dire la banlieue, c'est la banlieue de la cité, et ces subdivisions qui ont été étudiées par Denis Mirouz, donc il est dans la salle, si vous avez des questions après, il y répondra bien mieux que moi, mais ces subdivisions politiques, elles apparaissent de temps en temps dans des textes, et elles nous intéressent parce qu'elles marquent l'organisation du pouvoir, et elles marquent les centres du pouvoir, et parfois les centres du pouvoir sont à l'époque médiévale constitués par des églises, mais parfois ils sont aussi constitués par des fortifications, et là j'en reviens à mon sujet. Il y a aussi, a priori, en Pyrénées, surtout, en tout cas on a pu le montrer en Pyrénées, que ce soit sur le versant sud ou sur le versant nord, un système de relations entre ce pouvoir et les communautés qui y vivent, qui y habitent et qui y travaillent, qui s'appelle les vallées. Vous connaissez les vallées d'Andorre. Bien, ça vient de là. En fait, au Haut Moyen-Âge, les communautés se structurent, peut-être pas toutes, on n'en sait rien, en tout cas on a quelques textes, elles se structurent en vallées. On a sur la Haute-Ariège, là où je vous présente mon sujet, donc la vallée de Sos, hein, qui est mentionnée. Par exemple, ce n'est pas la vallée du Vic de Sceaux. Ces vallées n'ont rien à voir, forcément un petit peu, parce que les gens vivent dans un bassin versant, mais elles n'ont pas forcément à voir avec le bassin versant. Ce sont des organisations communautaires. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'elles se sont créées d'elles-mêmes, c'est-à-dire est-ce que les communautés se sont organisées d'elles-mêmes parce qu'elles avaient besoin de s'organiser, ou est-ce qu'en fait elles ont été créées par le pouvoir politique pour pouvoir avoir une relation avec les communautés. Aujourd'hui, on pense que c'est plutôt la seconde solution, mais en fait, on n'en a aucune preuve. Vous avez la vallée de Miglo, donc j'ai mis des cercles hein, pour les vallées. Voilà, en fait, ce qu'on connaît de la Haute-Ariège politique, on va dire, entre le 10e, début du 11e siècle, c'est-à-dire quasiment rien. Hein. Vous comprenez vite qu'on a quelques mentions. J'ai mis les dates des mentions à chaque fois, hein, que vous pouvez voir. Souvent, elles sont uniques. Donc c'est compliqué parce qu'en plus il y a pu y avoir, c'est pas forcément quelque chose qui reste égal pendant des siècles. Il y a pu y avoir des divisions, des unions, etc. Donc on perçoit absolument pas l'organisation politique au-delà. Les habitants, les gens qui vivent dans ces vallées, on a pu étudier ça. Alors ça, j'ai étudié ça il y a une vingtaine d'années. Et ce dont on est certain aujourd'hui, c'est que les habitats villageois tels que vous les connaissez aujourd'hui, pour 80% des habitats villageois, et là c'est vrai dans le Couserans aussi, là je vous présente la Haute-Ariège, mais 80% de ces habitats villageois se sont mis en place au Moyen-Âge, donc sont en place en l'an 1000, au moment où je travaille. Ils se sont mis en place au Moyen-Âge, c'est assez particulier, on ne retrouve pas ces formes en plaine. autour d'un type de village qu'on a appelé des villages à maison. Et quand on étudie les habitats, quand on peut tous les étudier au 11e ou au 12e, on se rend compte qu'ils sont en fait sur la haute Ariège et sur le Couserans, le camembert serait encore plus coloré en jaune, qui sont totalement majoritaires. Il y a très peu de villages qui se regroupent au 11e, 12e autour de châteaux ou autour d'églises sur ces territoires de montagne, parce qu'en fait, les villages sont déjà tous créés à cette époque-là, sont déjà tous regroupés. Ça marque quoi ? Que le village existe, bon, c'est déjà une information, mais ça marque en fait, si on se regroupe, c'est parce qu'on fait partie d'une communauté et qu'on a besoin d'être ensemble. C'est probablement le produit du système socio-économique, du système économique de ces gens, dans lequel les activités pastorales avec des communs, des estives, sont très importantes. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des systèmes qui sont sylvaux, agro, pastoraux, hein, totalement agricoles. Et on suppose aujourd'hui que les gens ont eu besoin de se regrouper pour gérer ça. Or, justement, les villages, alors j'ai pris deux exemples, hein, on pourrait prendre des exemples du Couserans aussi. Mais les villages, ils sont souvent situés sur une limite altitudinale entre les terrasses agricoles et les estives. Vous avez Aurus à droite, là, par exemple, hein, qui est vraiment... On ne voit plus trop les terrasses parce que c'est vrai qu'elles s'enfrichent hein, depuis plus d'une centaine d'années et récemment énormément, mais qui est entourée par des terrasses agricoles anciennes. Et Aurus est un de ces villages, hein, un village à maison. Et au-dessus, vous avez les estives. Ce sont des tranches, finalement, de montagne hein, que gèrent ces communautés. Ce sont des communautés qui sont extrêmement hiérarchisées. Hein. Le monde paysan ancien n'est pas égalitaire du tout. Et en fait, je vous ai mis le centenaire. L'église est à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que ces villages se dotent d'églises à l'époque romane, on va dire 11e, 12e siècle. Et quand ils se dotent d'églises, ils existent déjà. On ne va pas détruire un quartier du village pour construire l'église. La plupart du temps, on a des textes sur l'Andorre, on n'a pas de textes sur la Haute-Ariège et sur le Couserans. On voit que ce sont les notables du village qui se cotisent pour se payer une église. Hein, donc, ils ne vont pas détruire le quartier ou une maison. Elle est en position inférieure, ce qui montre que ici, en fait, Santenac est ici et l'église est là, hein, avec son cimetière autour. Elle est en position inférieure, ce qui montre que la sociabilité villageoise est assez puissante pour ne pas se laisser dominer par un bâtiment, même si c'est un bâtiment d'importance, hein, parce que forcément, être dans le village, être du village, c'est être de la paroisse, de l'église. Ici, à Aurus, elle est là, en fait, exactement l'église. C'est exactement le même principe, un peu plus près du village, mais toujours en position inférieure. Et ensuite, on a des agglomérats de maisons. Alors, si vous êtes dans le fond d'une vallée, par exemple à Orlu ou à Siguères, les maisons ont l'air à peu près alignées. On se dit, tiens, c'est la rue qui a structuré le village. Non, en fait, c'est des paquets de quartiers. On a pu définir, en comparant entre les vallées, que ces paquets de quartiers, ces quartiers, correspondaient à des maisons dominantes, on va dire des coqs de village, hein, des agriculteurs un peu plus puissants, qui regroupaient autour d'eux des maisons dominées, et que c'était comme ça que les villages étaient créés. Et selon les villages, quand on attrape de la documentation, on se rend compte qu'il y a 8 à 20 maisons dominantes pour structurer un village pyrénéen. Au-dessus de ça, il y a une organisation politique. Et cette organisation politique que je vous ai présentée au début, elle se met en place à travers un certain nombre de bâtiments, des abbayes par exemple. L'abbaye de Saint-Volusien à Foix, elle a été fondée au 9e siècle par Charles Chauve ou par un de ses administrateurs, hein, bien sûr, mais aussi par des fortifications. Et ce sont ces fortifications que j'étudie. Alors, on a très peu de sites pour l'instant. Je prospecte depuis 20 ou 30 ans. J'en découvre hein, tous les 4 ou 5 ans par bonheur. Hein. C'est très compliqué parce que vous allez voir, les sites en fait, de montagne fortifiés qui servent à cette organisation politique avec tous ces villages qui sont autour, mais ces sites, en général, ne sont pas du tout monumentaux. Ils sont situés sur des sommets altiers, sur des endroits absolument fantastiques, mais les murs dépassent rarement quelques mètres et il y a des sites qui sont sans murs. Alors, je vous ai mis tous ceux que je connais aujourd'hui, vous noterez que j'en ai un qui n'est pas localisé. Dans la documentation, je sais qu'il existe un site qui s'appelle Issaora. Je suppose qu'il est dans le coin de Larnat parce qu'on retrouve une famille Issaora au XIIIe siècle à cet endroit-là, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors, le premier site, et ça c'est facile, on l'a fouillé. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on l'a fouillé pour ces bâtiments les plus tardifs, le 13e, 14e siècle. Et quand vous construisez quelque chose, vous détruisez forcément l'information antérieure. Donc, quand on fouille un château du 13e, 14e siècle, et si je travaille sur ces périodes-là, c'est parce qu'on en a quand même beaucoup étudié et pas assez sur ces périodes-là. C'est pour ça que je me suis lancée là-dessus. Mais quand on fouille un château du 13e, 14e siècle, on voit bien le 13e, 14e siècle, mais on voit très mal l'an 1000 et ce qu'il y a avant. Montréal de Sceaux est situé en haute vallée du Vic de Sceaux. Il y a eu 12 années de fouilles dessus. Hein. On est en train de publier en fait la fouille. On est sur le cœur du château sur ce plan. Hein. Et ici, vous avez les murs qui sont tous fin 12e, 14e siècle, que j'ai mis en grisé. Parce qu'il faut s'imaginer que le château en fait a été occupé depuis l'âge du bronze moyen, à peu près moins 1400, jusque donc la fin du XIVe siècle. Et il a été, on l'a prouvé, totalement occupé au Moyen-Âge, en l'an 1000, au XIe et au XIIe siècle, mais sans les murs. Tout le site est entièrement retaillé. Nous avons des murs non maçonnés en pierre sèche, mais absolument pas les murs qu'on voit aujourd'hui. Et nous avons des encoches de poteaux et énormément de mobilier pour prouver que cette occupation a eu lieu. Alors, ici, ce mur cyclopéen, effectivement, est daté entre le 8e et le 11e siècle. On a des encoches de poteaux, pas pour mettre des étagères, hein, il s'agit de poteaux enterrés dans la terre sur un mètre qui font 25 cm de côté. Il y a certainement des grosses structures en bois. Et alors, ce qui est caractéristique, c'est que les comtes de Foix, quand ils vont reconstruire le château au 12e siècle et qu'ils vont faire un château maçonné à la chaux, eh bien, ils vont construire par-dessus ces choses de l'an 1000, du 8e, du 9e, du 10e, du 11e siècle, pour en reprendre le pouvoir et la symbolique. Parce que ce sont des sites publics, les comtes de Foix au 12e siècle sont les représentants du public, c'est l'État, hein, le comte est comte par la grâce de Dieu, hein, c'est le sommet de l'État. Et donc, il reconstruit par-dessus, ce qui fait que nous, aujourd'hui en fouille, on a du mal à lire ce qu'il y a, mais on se rend compte de l'importance du site, même s'il est sans maçonnerie au XIe siècle, de l'importance du site auparavant. Il y a aussi des retailles. Vous avez à gauche la retaille d'accès, c'est un éperon barré. On a des postes de garde, des habitats. Le foyer, là, qui est à droite, date du haut Moyen-Âge et court jusqu'au XIIIe siècle. Il y a un petit déplacement du foyer. On a des accès. Tout le site, en fait, a été utilisé aux alentours de l'an 1000. Et entièrement modifié. J'ai essayé de faire une vague conclusion. Vous avez le cœur du château qui est là-haut, en fait, hein, ici, qui est occupé entièrement en l'an 1000. Vous avez ici une première défense. On a retaillé avec un poste de garde. Et cette défense-là, je la suppose parce que je ne l'ai pas fouillée. Et vous avez des défenses ici sur le devant, sur le seul côté accessible. Les petits triangles, ce sont les falaises, hein, vues en plan. En fait, le site de l'an 1000 à Montréal-de-Sceaux, c'est un site sans mur maçonné, avec quelques gros murs en pierre sèche, des retailles de partout, il n'y a plus rien de naturel dessus, des habitats importants, et c'est quand même un site très, très important, puisqu'on l'appelle Montréal. Il a dû dépendre directement d'une autorité royale. Il n'y a pas un roi qui est venu le... Or, en l'an 1000, je vous rappelle qu'il n'y a aucune autorité royale sur le secteur. Donc, c'est forcément au haut Moyen-Âge que ce toponyme s'est forgé, hein, pour l'appeler Montréal. La dernière autorité royale, c'est au 9e siècle. Donc, dès lors, je me suis dit, tiens, en l'an 1000, en histoire médiévale, on m'a appris qu'en l'an 1000, il y avait toujours une tour maîtresse, c'est-à-dire ce que souvent on appelle un donjon. Et puis un mur d'enceinte, c'était la forme classique du château. Et on s'est dit, en l'an 1000, il y a peut-être des châteaux différents. Cependant, il y a quand même des châteaux. Je suis sortie un petit peu de la Haute-Ariège, hein, j'ai été obligée d'aller chercher en bas. Il y a quand même, au XIe siècle, des fortifications qui ont des tours. Toutes les fortifications du XIe siècle de la Haute-Ariège ne sont pas des fortifications comme Montréal, même s'il y en a beaucoup. Donc, je n'ai pas de traces en Haute-Ariège, mais à la limite de la Haute-Ariège, à Foix, à gauche, on a quand même la mention de la tour au début du XIe siècle, et on peut supposer qu'il s'agit de la tour de l'Argette, où je vous ai surligné la partie la plus ancienne, en fait, du mur, hein, sans qu'on puisse le dater, parce que c'est vrai que c'est très difficile de dater un mur, mais il a l'air de pouvoir être 11e ou début 12e siècle, en tout cas il n'est pas plus tardif. Et ici, ce qui reste de la tour, probablement aussi 11e siècle, du château de Roquefixade, vous voyez, ce n'est pas grand-chose hein, de toute façon. Mais en tout cas, il y a des sites qui ont des tours, sauf que dès qu'on remonte en Haute-Ariège, on ne trouve plus de sites de ce type. Le château de Lordat, qui est très connu, est un bâtiment, quand on étudie ses murs, on a l'impression que c'est le même maçon qu'à Montréal-de-Sault et qu'ils ont été construits fin 12e, début 13e siècle. Il faudra le vérifier, en fait, par la fouille. Le château de Miglot, qui est aussi un site ancien, a été entièrement reconstruit au XIVe siècle et honnêtement, j'arrive pas du tout à trouver de vestiges maçonnés qui soient plus anciens que le XIIe siècle, assurément, et peut-être même plus anciens que le XIVe siècle. Ensuite, il y a des fortifications totalement perdues dans la forêt et dans la montagne qui sont sur des sites extrêmement altiers, qui sont souvent peu connus et qui sont encore moins monumentales. Et celles-là sont beaucoup plus intéressantes parce que, à la différence de Lordat et de Miglot, ou de Montréal, elles n'ont pas été reconstruites. Elles sont abandonnées dans le cours du XIIe siècle. Donc on les a dans leur jus telles qu'elles sont au XIIe siècle et on peut espérer comme ça se rapprocher de ce qu'elles sont en l'an 1000 ou 11e siècle. En fait, elles semblent avoir été peu modifiées. Ce sont justement ces fortifications publiques qui dépendent des comtes, que ce soit les comtes de Toulouse ou les comtes de Foix, et elles sont déléguées à la garde, à des châtelains, on appelle ça des castellans. Ce sont des gens qui prennent le nom de la fortification qu'ils gardent. On n'est pas du tout comme à la fin du Moyen-Âge, à une époque où les châtelains, on donne à garder une fortification quelques années, c'est une charge, et puis après on change de châtelain. On est au XIe siècle dans un système, et qui va perdurer jusqu'au milieu du XIIe siècle, où le châtelain s'attache la garde de la fortification qui devient plus ou moins héréditaire et du coup en prend le nom. Ça a été le cas de beaucoup de grandes familles de la Haute-Ariège. Les deux Miglots sont en fait des châtelains des comtes de Foix. Ils ne prêtent jamais hommage pour le château de Miglot. Le château de Miglot est bien une fortification des comtes de Foix du domaine public. Ils en ont la garde, les deux Lordat, etc. Et c'est comme ça que j'ai repéré en fait ces fortifications et c'est pour ça que je suis en train de chercher Issaora. C'est parce que j'ai un 2 Issaora dans ce groupe de personnes-là et que je ne sais pas, la fortification, elle existe probablement. Alors, il y a Roquemort qui est au-dessus de Tarascon. C'est un gros mur de pierre sèche, 2 mètres de large. Aujourd'hui, au maximum, il fait 1,20 m de haut. Peut-être était-il plus élevé, mais enfin, il n'y a quand même pas beaucoup de cailloux autour, sauf à l'extrémité où on peut avoir un bâtiment ici. Je vous ai mis une photo du mur hein, pour que vous puissiez voir le style. Hein. On a eu l'impression, la première fois qu'on est arrivé sur ces ouvrages, que c'était des fortifications proto-historiques, absolument pas médiévales. Il nous a déjà fallu des années pour comprendre qu'elles étaient réellement médiévales, hein, parce que ce n'est pas du tout dans l'état d'esprit de ce qu'on apprend traditionnellement. On a un site à Sabar. Sabar est l'endroit le plus important de la Haute-Ariège au Moyen-Âge. C'est la confluence du Vic de Sceaux avec le Tarascon. C'est l'endroit où probablement il y a la première église paroissiale de toute la Haute-Ariège. Ça s'appelle encore aujourd'hui le Sabartès, hein, la Haute-Ariège. À Sabar, j'ai mis des années à comprendre pas où était la fortification, mais simplement à la voir. Parce que vous voyez ici, il a fallu décaper pour comprendre qu'il y avait effectivement des murs sur le sommet. On n'y voyait absolument plus rien. Donc on a un site sur Sabar. On a un site à 1300 mètres d'altitude, 700 mètres au-dessus de la vallée du Vic de Sceaux, au-dessus du village de Nio, que je vous ai mis en photo là. Donc ce sont des sites qui sont souvent comme ça, hein, extrêmement altiers, avec un éperon barré. On est toujours dans le même système. Il y a très très peu de murs en pierre. C'est la falaise qui fait le site. Il y a très peu d'investissements et ce sont pourtant les sites les plus importants en fait pour la fortification publique à cette époque-là. La fortification à cette époque-là, elle n'est pas minorée. On voit nous aujourd'hui partout des châteaux du XIIIe, XIVe, mais c'est parce qu'on ne voit plus les châteaux de l'an 1000. Hein. Il y en avait probablement autant. On a eu tendance, même nous historiens, à dire peut-être qu'au IXe siècle, il y a moins de fortifications. On revient sur cette idée. C'est surtout qu'on les a souvent mal vues. Donc là, on est sur le même principe. Gros mur, éperon barré. Le mur fait 2 mètres de large, il fait 1 mètre de haut, hein, c'est de la pierre sèche bien sûr, hein, toujours pas de la maçonnerie. J'en ai trouvé une assez récemment, il y a 2 ou 3 ans. J'ai mis un temps fou à trouver parce que je ne suis pas allée chercher assez haut. Je cherchais fortification comme on les cherche d'habitude, quand même relativement proche de l'habitat. En fait, au-dessus, dans la fameuse falaise de Saint-Sat, qui est la grande falaise de la Haute-Vallée de l'Ariège, sur la droite, donc à l'amont de la falaise, vous avez quelque chose qui s'appelle le rocher des Corbeaux. La falaise fait 300 mètres, hein, il y a des vraies voies d'escalade dedans. C'est du 6B, hein, ce n'est pas des voies d'escalade faciles. Eh bien, au sommet, c'est un sommet allongé dont je vous ai mis le plan. Il y a bien un tout petit col pour arriver sur le sommet, que des falaises autour, hein, minimum 100 mètres, la plupart 300, et 2 ou 3 murs en pierre sèche qui barrent, en fait. Et cette fortification est mentionnée encore au début du XIIe. Et le castellan, le châtelain qui est en charge pour le comte de Foix est mentionné, puis elle est abandonnée. Donc, c'est exactement le site typique. Il est très loin des habitats. Il est très rustique et pourtant c'est un des sites majeurs de la Haute-Ariège, probablement en l'an 1000. Voilà, alors l'avenir, bon l'avenir déjà c'est de trouver le dernier site. Les questions sont nombreuses. Il faudrait fouiller ou au moins décaper. On ne peut pas tout fouiller. L'archéologie ne résout pas tous les problèmes. Il faut qu'il y ait, vous savez, des couches épaisses de sol. Et sur certains de ces sites, notamment à Verdun, il n'y en a pas. Sur d'autres, il y a déjà des fouilleurs clandestins qui font des trous un peu partout, par exemple à Roquemort au-dessus de Tarascon. Donc ça va vite poser des problèmes de lecture, parce qu'une fois qu'il y a un trou, on ne comprend plus rien. Cependant, ce serait effectivement très bien de décaper certains murs, de récupérer un petit peu de mobilier, parce qu'on connaît bien le mobilier de ces époques-là, donc on pourra dater, comprendre qui étaient les occupants. Ces grands sites de la fortification publique, ces grands sites de l'autorité publique, qui hébergeait-il finalement? C'est quand même une question, parce que ces sites qui sont à 1300 mètres d'altitude, 700 mètres au-dessus de la vallée, je dis souvent en rigolant, les gens qui étaient là-haut, ils étaient punis. C'est difficile pour nous d'imaginer qu'il y ait pu y avoir un habitat aristocratique, bien qu'il y ait des aristocrates qui en aient la garde. C'est pas parce qu'ils en ont la garde qu'ils y vivent forcément. Mais peut-être existe-t-il. On ne sait même pas qui y vivait. Est-ce que les gens y vivaient tout le temps? Est-ce qu'il y avait du monde, etc. Donc, les questions après, les questions qui se posent en histoire vont être plus à quoi servent cette fortification et comment arriver à voir quels sont les sites publics les plus importants entre les fortifications, les églises ou les abbayes, comme Saint-Volusien à Foix, hein, qui est une abbaye du pouvoir public à cette époque-là. Est-ce que ces fortifications, finalement, qui sont très éloignées, ne sont pas négligeables dans le monde politique? Ça, c'est plutôt un travail d'historien que j'espère que nous pourrons faire bientôt. Voilà, merci.